d'ensemble de l'actualité.
The only thing left is the vote. That could have been Mickey Mouse. That could have been a dead person. We could do like a... Did you all watch My Cousin Vinny? You know the movie? It's one of my favorite war movies because he comes from Brooklyn. And when the nice lady who said she saw, and then he says to her, how many fingers do I got up? And she says, three. Well, she was too far away to see it was only two. These people were further away than my cousin Vinny was from the witness.
Oh, que c'était pénible. Giuliani, hier, donc l'avocat de Trump, qui fait un espèce de parallèle avec le film My Cousin Vinny, mais c'était mauvais, il avait l'air... Écoute, Luc, c'est la déchéance de Giuliani. Le maire du 11 septembre qui
de
a...
De lui et de ceux qu'il représente. Oublions
non,
pas
mais
tu
sais, ce gars-là, là, je veux dire, le 11 septembre, là, il a fait preuve d'un leadership extraordinaire. Tout le monde l'a salué, l'a porté au nu. Puis, écoute, il est méconnaissable. Es-tu malade?
Es-tu malade? Il a 76 ans. C'était un gars qui a eu une carrière, disons, en denti. Il était crédité, à juste titre d'ailleurs, d'avoir redonné à New York, un peu à la ville de New York, un peu de son éclat d'antan.
Et de son sentiment de sécurité, hein?
Son sentiment de sécurité.
Ouais.
Tout ça est vrai. Il a reconstruit Times Square. Il a été un maire assez apprécié. Puis en 2001, évidemment, il arrive comme ça des moments où on voit des humains qui se surpassent. Faut le dire de Giuliani, le 11 septembre 2001, il s'est surpassé. Ouais. Il est devenu le leader. Même, je me remémore encore des images de lui avec Hillary Clinton, qui a été son adversaire, ensemble, en train d'essayer d'aider.
Parce qu'elle était sénatrice de New York à ce moment-là.
Elle était sénatrice de New York, oui. Elle était sénatrice de New York. Alors, là, il a quitté la politique. D'abord, il a été un des favoris en 2008, je crois, pour devenir candidat républicain. Mais au bout de deux primaires, je pense qu'il était parti. Puis depuis ce temps-là, c'est la descente en enfer. Le gars vit une déchéance. Je suis pas capable trop de l'expliquer. Premièrement, il est obsédé par le cash. Alors, il a accepté n'importe quel client depuis des années. Par exemple, une association de djihadistes qui voulait se faire retirer sur la liste des organisations terroristes. Il représentait n'importe qui. Et là, pour représenter Trump dans ça, là, il charge 20 000 $ par jour.
Hein?
Il s'est retrouvé devant...
Ah oui,
20 000 $ par jour. Il s'est retrouvé devant un tribunal, chose qu'il n'avait pas faite depuis au moins 35 ans, en Pennsylvanie, devant un juge nommé par Trump. Le juge a fini par rire de lui tellement il était ridicule. Puis là, je retourne un peu en arrière, puis je te dis, pensons à la conférence de presse du samedi précédant le vote. Là, il convoque les gens dans le Four Seasons de Philadelphie. C'est Trump qui le confirme lui-même par un tweet. Alors les journalistes se précipitent, comprends-tu, au Four Seasons du centre-ville de Philadelphie. Il se précipite là. Oups! Il n'y a pas de conférence de presse. Puis tout à coup, il se rend compte. Oh! On vient d'avoir un rectificatif. C'est pas le Four Seasons Hotel. C'est le Four Seasons Landscaping Company, qui était une compagnie qui s'occupe de planter des arbustes et dont les bureaux sont situés ou l'atelier est situé
dans un parc, une espèce de parc industriel à côté d'un centre funéraire d'un bord puis un sex shop de l'autre.
Un shop de l'autre bord. Exactement.
Hein, c'est ça, hein?
Alors là, ça a été là, comme...
Mais elle est comme un jeu de cartes, hein? On s'entend, il s'était...
Ah, c'est pas possible. Alors lui, ils ont dit à Rudy, qui est prêt à n'importe quoi là, pour avoir du cash, ils ont dit, écoute, toi, tu vas t'occuper de l'opération après l'élection, on va contester partout. Tu vas nous monter là, un plan de bataille. Alors, il a engagé des firmes d'avocats de grand prestige dans les plus grandes villes américaines. Mais là, les firmes d'avocats se sont désistées une par derrière l'autre. Et il paraît même qu'ils demanderont même pas d'être payés. Parce que quand ils ont vu le cirque qui se créait autour d'eux, ils ont dit, mais voyons donc! Fait qu'ils ont abandonné les affaires, ils sont partis. Il n'y a plus que Giuliani. Alors, il fait cette conférence de presse hier que j'ai vue en direct. En passant, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu, mais Anderson Cooper, hier à CNN, D'habitude, il commence son émission par un commentaire, une espèce d'édito. Là, il a commencé en faisant jouer des extraits de la conférence de presse, puis là, la caméra revenait sur lui, puis il riait. Puis on envoyait un autre, puis il riait. Puis on envoyait un autre, puis il disait « Well, this is where we are ». Et là, en plus de voir Giuliani, dont la teinture à cheveux coulait, puis qui disait que c'était Biden lui-même qui était le chef de cette fraude gigantesque, blablabla, il était accompagné par une autre avocate.
Hey, ça, c'était quelque chose.
Elle est arrivée, puis elle a raconté.
Écoute, je ne sais pas.
Que, comprends-tu, Hugo Chavez, tu sais, le brillant révolutionnaire qui était à la tête du Venezuela, qui est mort en 2013,
ben oui, il est mort.
Était celui qui était derrière tout ce qui est arrivé. Parce que, et là, je résume ça très brièvement, là, il y a une compagnie qui s'appelle Dominion. En fait, elle est d'origine canadienne, cette compagnie-là. Et c'est une compagnie qui est spécialisée dans la fabrication de machines qui comptent des tickets, tu comprends-tu? Ça sert pas juste à compter des élections, ça compte toutes sortes d'affaires. Dominion, ils ont réussi à... la dame, hier, elle l'a dit. Ça a été créé par Hugo Chavez, le Venezuela, d'autres argents communistes, et patati et patata.
C'est un complot communiste.
George Soros.
Attends, on a un extrait.
Un complot communiste.
Écoute bien ça, Luc, on l'a l'extrait de la dame en question.
Vas-y.
The Dominion Voting Systems, the Smartmatic Technology Software, and the software that goes in other computerized voting systems here as well, not just Dominion, were created in Venezuela at the direction of Hugo Chavez to make sure he never lost an election after one constitutional referendum came out the way he did not want it to come out.
Fait que c'est un complot communiste.
C'est un complot communiste. Hugo Chavez est mort en 2013, puis Trump avait jamais parlé d'être président des États-Unis à ce moment-là, mais enfin. Alors, tout ça se déroule alors qu'il y a une transition qui ne se fait pas vraiment parce que Trump ne veut pas. Il continue de dire que l'élection a été truquée. Et là, tout le monde commence à paniquer.
Mais là, ce qui se passe au Michigan, ce qui se passe au Michigan, Luc, va falloir...
Au Michigan, c'est que juste avant de certifier le vote, il a invité les élus au niveau de l'État, les sénateurs et les représentants de l'État du Michigan à la Maison-Blanche pour leur parler. Évidemment, pour leur parler de quoi? J'ai dit, de quoi tu veux leur parler? On sait même pas si ça va avoir lieu. Les avocats de Biden ont dit, mais c'est un abus de pouvoir tellement épouvantable. Et là, ce qui fait paniquer, puis j'ai vu ces chiffres-là ce matin, OK? La firme Pew Research, je sais pas si tu te souviens, on en avait parlé avec Jean-Marc Léger, peut-être la plus renommée des firmes de recherche aux États-Unis.
Oui, absolument.
Puis a analysé le regard porté par les Américains sur le comportement de Trump et de Biden depuis l'élection. Le résultat est assez clair, hein? Sans appel, comme on dit. Seulement 31% des personnes interrogées pensent que son attitude a été bonne ou excellente. Et là, Trump, ce matin, est reparti à envoyer des tweets à droite et à gauche, refuse systématiquement de collaborer, et des sources qui ont accès à lui ont laissé savoir à certains médias clés que la vérité, c'est que là, il acceptait qu'il avait perdu. Mais il voulait faire payer les démocrates parce qu'en 2016, dit-il, ils ont essayé de délégitimer son élection. Alors, il dit, là, ils vont me le payer. Mais le problème, c'est que pendant ce temps-là, les gens meurent par milliers. Regarde, écoute ça, là, dans les dernières 24 heures, entre mercredi et jeudi, 2239 décès liés à la COVID-19 aux États-Unis, plus de 200 146 nouveaux cas de contamination, voilà. Et la barre des 2000 morts quotidiens qui était régulièrement franchie au printemps, on y est revenu. L'épidémie est actuellement dans ce qu'on appelle dans une phase absolument exponentielle. Là, les grandes organisations, les grandes institutions américaines dans le domaine de la santé, que ce soit le CDC, le Center for Disease Control et les autres d'épidémiologie, sont en train d'oublier Trump et de dire aux gens, par exemple, le CDC a dit « Ne voyagez pas pour la Thanksgiving ». C'est la semaine prochaine, souvenons-nous qu'aux États-Unis, la Thanksgiving, c'est plus gros que Noël en termes de voyage, de cadeaux.
Puis ça risque d'être mortifère là, cette année. Là,
ça va être épouvantable, comprends-tu? Hein? Là, on en est à nouveau la fermeture des écoles à New York, couvre-feu en Californie, nouvelles restrictions dans plusieurs grandes villes. Le seul État des États-Unis qui n'a pas connu de hausse, c'est Hawaï. Évidemment, c'est situé à peu près à 4000 km des côtes américaines. Alors, là, les gens commencent à dire, mais écoute, il devient criminel. Ça n'a pas de bon sens.
Parce qu'il ne prend pas les
Il prend pas les mesures voulues, puis il empêche l'équipe qui est en train de prendre place.
De les prendre
et même d'avoir contact comme Fauci. On lui a interdit de parler à Biden ou à son équipe. Tu parles. Peut-être qu'il fait à cachette, peut-être qu'il fait pas, je le sais pas. Mais là, les gens commencent à dire, puis les Américains commencent à réaliser. D'abord, on voit des images dramatiques. El Paso, au Texas.
Ah oui.
Le système hospitalier a cassé complètement. Devant les hôpitaux, là, t'as des gens qui ont la COVID, qui sont en fait pas mal, ils sont mal en point, ils sont couchés par terre devant l'hôpital. Il n'y a pas de place. Ils sont pas capables de les rentrer. Les corridors sont pleins. Tous les espaces sont remplis. Évidemment, c'est le cas le plus frappant, mais des cas comme ceux-là commencent à se multiplier. Et là, elle est hors contrôle, la pandémie, là-bas. Et écoute, il est arrivé un amiral de la US Navy, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, dans l'armée ou dans le militaire, disons, tout ce qui est santé est entre les mains de la Navy. Donc, c'est un amiral, médecin, spécialiste, qui est allé, puis il a pris une chance, il peut se faire sacrer dehors tantôt là, par un tweet, il a pris une chance, il est allé à la télévision, il a dit, écoutez, là, il faut qu'on fasse quelque chose, là, ça presse, là, fini les niaiseries, puis il s'adresse même à Trump, puis il dit, Monsieur le Président, s'il vous plaît, là, c'est plus de la partisanerie, c'est plus de la politique, c'est pas une élection, c'est des gens qui meurent par milliers, par milliers, par milliers. On parle même de la possibilité de dépasser 400 000 morts rendus au mois de janvier. Écoute, c'est d'un drame, mais d'un drame, je suis bouche bée devant ça. J'ai jamais vu, Bernard, dans une démocratie en tout cas, un gouvernant aussi irresponsable, aussi malade, et je me demande si on n'est pas loin du point où ils vont invoquer le 25e amendement. Tu sais, celui qui dit, si jamais le président est plus capable de gouverner, le vice-président active quelque chose, je me souviens plus exactement de la procédure, mais le 25e amendement peut faire en sorte que le président perd ses pouvoirs puis qu'il est évacué de la Maison-Blanche. J'ai pas dit qu'on est en train de le faire. C'est pas en train d'arriver, mais il y a des gens qui y pensent. Parce que là, c'est plus une question de politique. C'est plus démocrate contre républicain. Ce sont des vies par milliers qui sont perdues. Il est malade, ce gars-là. En fait, c'est devenu un comportement carrément criminel. Voilà.
C'est incroyable. C'est
ah,
comme,
moi, je suis de, d'accord.
J'ai passé la soirée hier, là.
Il n'y a plus de morale. Il n'y a plus de, tu sais, comment ils appellent ça, moral compass, une boussole morale.
Ouais.
Je me dis, ce gars-là, il est fou, mais il est complètement sauté. Et puis là, il va falloir que quelqu'un fasse quelque chose parce que c'est pas normal de laisser mourir ses concitoyens à coups de milliers en refusant d'agir. C'est complètement crapaud.
Puis là, Biden commence à s'impatienter. Là. Il était tout sourire là dans les jours qui ont suivi là l'élection quand sa victoire a été confirmée. Mais là, il commence à la trouver moins drôle. Là.
Regarde ce qu'il a dit. Il est difficile de comprendre comment cet homme raisonne. Je suis convaincu qu'il sait qu'il a perdu et que je prêterai serment le 20 janvier. Ce qu'il fait est tout simplement scandaleux. Et ça, c'est même en y allant avec ces propos-là, je l'ai trouvé plutôt modéré. J'ai l'impression que politiquement, il fait attention. Biden, il se dit, les derniers décomptes, là, Biden a eu 80 millions de voix, puis Trump un peu moins que 74 millions. Alors, mettons 74 millions, il se dit, il y a 74 millions des gens qu'on sait pas trop, ben alors pourquoi m'embarquer dans une bataille avec ce gars-là, qui fasse du shadow boxing, comme on dit, j'embarque pas avec lui. Sauf qu'on arrive au point où il utilise tous les outils dans le coffre à outils de l'exécutif américain pour empêcher de sauver les vies de son peuple. Il est fou! Il est complètement sauté! Il l'a toujours été, là, mais là, vraiment, ça a atteint des dimensions qui dépasse mon entendement. J'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais.
Puis tu sais, ça arrive pas. J'ai
vu ça ailleurs, mais j'ai jamais vu ça.
Mais non, puis tu sais, tu dis, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mettons, dans un autre pays, une démocratie occidentale. Mais là, on n'est pas dans n'importe lequel pays. On est supposé être dans la plus grande puissance. Honnêtement, moi,
Gilles Bernard a essayé
de faire... Je suis sûr du tout que c'était la plus grande puissance, parce que sur le plan moral, ce pays-là est en pleine déliquescence. Son autorité politique est en pleine déliquescence. Fait que de dire que les États-Unis sont le plus grand pays, honnêtement, non. Plus maintenant,
J'étais au point de me dire, est-ce qu'il y a déjà eu des hommes, des femmes, dirigeants, dirigeantes qui ont été aussi capotés que ça dans une démocratie? Là, j'ai pensé à Berlusconi, mais il n'était pas aussi capoté que Trump.
Non.
Berlusconi, il était extravagant, il était excentrique, il était toutes sortes d'affaires, mais pas au point de mettre la vie de son peuple en danger. Alors, j'ai fini par arriver à la conclusion que les deux seules comparaisons là, qui me viennent en tête, c'est Idi Amin Dada en Ouganda, hein, et c'est Bokassa Ier, l'empereur de Centrafrique. Ce type de personnage, mais ces personnages-là, c'est des bouffons. Mais comme a dit hier, justement, Anderson Cooper, il dit « Quel clown! » Puis là, il s'arrête, puis il dit « Oh, je m'excuse aux autres clowns, je les aime bien, parce que ça, c'est pire qu'un clown. »
Non,
ça n'a pas de bon sens. C'est un criminel.
Tu sais, les Américains sont... ils sont pas fiers. Il y a une partie de l'Amérique qui a honte présentement. Mais pour le plus grand drame de l'Amérique, t'as à peu près la moitié.
Ben là, tu les disais, États-Unis tu disais, qui sont en... Mais attention...
Tu disais là, le tiers, là. On est plus dans le tiers que la moitié. Encore la moitié du monde qui ont voté Christy de Bâtard, qui ont voté pour lui. Un peu moins que la moitié, mais quand même.
Je te rappelle quand même qu'il s'est passé des choses depuis l'élection, que cette pandémie-là a lieu et tout ça. Et je te rappelle le résultat que je te donnais tantôt de la recherche de Pew Research. Il y a seulement 31% des personnes qui pensent maintenant que son attitude est bonne ou excellente.
Ouais, c'est ça.
Ça n'a pas de bon sens.
Mais quand même, t'en as encore le tiers, tabarouette.
Je me demande comment constitutionnellement ils vont faire, parce que s'ils continuent, il va falloir le sortir de là. Il va falloir l'y interdire de prendre des décrets présidentiels.
Luc, on se reparle un petit peu plus tard à propos de Nuremberg, le grand procès de Nuremberg, il y a 75 ans aujourd'hui qui s'est ouvert. Grande page d'histoire. On s'en reparle tout à l'heure. On va aller à la pause au retour. Une belle cause. Honnêtement, je la connaissais pas. Et puis c'est original, je vous la présente, bougez pas.